9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
À la une de votre journal, Martin Guez, 10 ans de regrets et un au revoir au Royaume-Uni.
Le Premier ministre Keir Starmer a bien choisi son jour, lui qui a démissionné à la veille des 10 ans du Brexit. Un départ symbole de l'instabilité politique du pays depuis son départ de l'Union Européenne, départ que beaucoup regrettent aujourd'hui, notamment les plus jeunes et les agriculteurs. Gros plan sur les 10 ans du Brexit dans ce journal avec Emeline Vin, notre correspondante à Londres. Après un marathon de pourparlers, les négociateurs de premier plan de l'Iran et des États-Unis ont quitté la Suisse. Les États-Unis qui annoncent le retour imminent de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran, ce qui n'est pour l'instant pas confirmé, mais ce qui serait un grand pas dans le dossier du nucléaire iranien. Bientôt 39 ans, mais encore l'appétit d'un gamin. Lionel Messi affamé de buts à la Coupe du Monde et de deux qui font 18. Voilà l'Argentin tout simplement meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et puis enfin, un coup de jeune sur la scène jazz. Une nouvelle scène rafraîchissante à Maison Lafitte, près de Paris, où se tient le Maison Lafitte Jazz Festival. Immersion en fin de journal.
Ici la sortie au Royaume-Uni, on se souvient aujourd'hui du Brexit, tandis que Keir Starmer dit, lui, exit.
Qui a démissionné hier de son poste de Premier ministre, un peu moins de 2 ans après avoir pris ce poste, et à quelques heures des 10 ans du Brexit dans le pays, lui qui était partisan d'un rapprochement avec l'Union Européenne. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Keir Starmer lâché par ses députés du Parti Travailliste. Il paye aussi une série de mauvais choix politiques. Alors, what's next, comme on dit chez vous? Que va-t-il se passer maintenant au Royaume-Uni?
Alors, Keir Starmer devrait rester en poste jusqu'à la désignation de son successeur. Alors, en théorie, d'abord, les candidats à sa succession devraient se déclarer le 9 juillet, date d'ouverture des nominations, parce qu'ils doivent recueillir le soutien d'un quart du groupe parlementaire. Liste finale connue une semaine plus tard, puis élection interne et nouveau Premier ministre d'ici septembre. Ce qui représente quand même 2 mois et demi de flottement, d'incertitude, même si ce seront les vacances d'été. En pratique donc, il est possible qu'il n'y ait qu'un seul candidat, Andy Burnham, qui vient de prêter serment comme député. Alors lui, il aurait le soutien des 3/4 du groupe parlementaire. Il s'agirait alors de ce qu'on appelle ici un couronnement, une transition sans élection. Inconvénient, il n'y aurait pas de débat d'idées, parfois utile pour construire un consensus. Consensus que n'a pas réussi à trouver Keir Starmer.
Et Keir Starmer qui aura payé ce manque de consensus. On le disait, Emeline, c'est une démission qui intervient 10 ans, presque jour pour jour, après le Brexit. Le Brexit, c'était le 23 juin 2016, le Royaume-Uni qui quittait l'Union Européenne. Alors, y a-t-il un lien entre le Brexit et l'instabilité politique actuelle dans le pays?
Difficile, en tout cas, de ne pas voir de corrélation. En 10 ans, 6 premiers ministres se sont succédés à Downing Street. C'est vrai que le Brexit a marqué un moment de polarisation intense du débat politique, de clivage entre sensibilités et au sein même des formations partisanes, même s'il y a bien eu d'autres crises, hein, comme le Covid ou la guerre en Ukraine. C'est bien simple. Depuis 2015 et le début de la campagne sur le Brexit, aucun chef de gouvernement n'a tenu les 5 années complètes d'une législature, poussée à chaque fois vers la sortie par son propre parti.
Emeline Vin, on va rester avec vous puisque vous avez rendu visite surtout aux agriculteurs britanniques 10 ans donc après le Brexit. Alors qu'aujourd'hui, 2/3 des Britanniques estiment que cette sortie de l'Union Européenne était une mauvaise idée. Un des motifs de ce départ était à l'époque que le pays versait trop d'argent à Bruxelles. Les partisans du Brexit qui promettaient notamment de remplacer la fameuse PAC, la politique agricole commune, par des subventions au cas par cas. Sauf qu'aujourd'hui, Emeline, les agriculteurs regrettent la PAC, comme vous avez pu le constater.
Il y a 10 ans, Hugh Broome était contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Aujourd'hui, cet éleveur bovin du sud de l'Angleterre regrette les subventions de la politique agricole commune.
Certes, la PAC a toujours été lente. Ça prend 7, 8 ans à chaque fois, mais au moins, c'est prévisible. Ici, depuis le Brexit, les aides changent toutes les 30 secondes.
SFI, BPS, RDP, les aides fragmentées du gouvernement sont conditionnées à des stratégies environnementales. Du travail en plus pour Lawrence Matthews, 40 ans d'élevage et de culture céréalière au compteur.
Il faut surveiller les annonces gouvernementales tout le temps. J'ai réussi à décrocher une subvention d'efficacité agricole. J'ai pu renouveler mon équipement, avoir des outils électroniques plus éco-responsables. Mais ça n'a pas été disponible longtemps et beaucoup d'autres exploitations n'ont pas été assez rapides et ont loupé le coche.
En plus, Hugh Broome dénonce un gros manque de visibilité.
Les subventions que je reçois représente la moitié de ce que je touchais avec la PAC. Je touche actuellement une aide qui doit terminer l'année prochaine et je ne sais pas ce qui arrivera après.
Le Brexit a confirmé vos craintes.
Oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Ça nous a coûté des centaines de milliards.
Depuis 5 ans, les éleveurs dénoncent aussi difficultés d'approvisionnement et baisse des exportations. Emeline Vin, de retour de Dorking, RFI.
Emeline Vin qui signait ce matin notre dossier de la rédaction. Merci Emeline. Dossier à lire également sur notre site internet RFI.fr, notamment cet éclairage sur le rapprochement tenté à nouveau par le Royaume-Uni avec l'Union Européenne.
En Suisse, fin des discussions techniques entre Iran et États-Unis.
Qui ont convenu de la création de groupes de travail, notamment sur le nucléaire. Alors qu'hier, les négociateurs de premier plan ont quitté le château de Birkenstock, notamment le vice-président américain J.D. Vance, qui a annoncé que l'Iran avait accepté d'inviter à nouveau des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son territoire. Ce que Téhéran n'a pas confirmé, l'AIEA non plus, mais ce sera un grand pas dans ces négociations. L'AIEA qui joue un rôle clé de surveillance du nucléaire en Iran, Guilhem Delteille.
L'AIEA a été les yeux de la communauté internationale en attente à Fordo ou encore à Ispahan. L'accord de Vienne signé en 2015 lui avait confié la mission d'inspecter les installations nucléaires iraniennes et de vérifier que la technologie développée par Téhéran visait bien à développer un programme civil et non militaire. Elle devait donc contrôler que le régime iranien respectait bien l'engagement en échange duquel il avait obtenu une levée de sanctions internationales. Mais en se retirant de l'accord en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, les États-Unis ont compliquer la tâche de l'agence. L'Iran a alors commencé à restreindre l'accès des inspecteurs de l'AIEA à ses sites nucléaires, au point qu'en mai 2025, le gendarme onusien a dit avoir perdu la continuité de sa connaissance sur plusieurs aspects du programme nucléaire iranien. Deux semaines plus tard, Israël et les États-Unis lançaient des frappes contre l'Iran, touchant notamment les principaux sites nucléaires qu'ils suspectaient d'abriter un programme militaire. Les relations avec l'AIEA se sont alors encore tendues, et depuis, les inspecteurs onusiens n'ont pu accéder qu'aux sites qui n'ont pas été touchés par les frappes israélo-américaines, pas à ceux qui inquiètent le plus les pays occidentaux, comme les voisins arabes de l'Iran.
Téhéran qui a par ailleurs répété ce mardi vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial. Le négociateur en chef iranien Mohammad Bakher Khalibaf a affirmé à son retour de Suisse que les conditions dans le détroit d'Ormuz ne retourneraient pas à celles d'avant-guerre.
La Syrie a soif de justice.
Et ces dernières semaines, les populations locales s'impatientent et les manifestations s'enchaînent dans les grandes villes du pays pour réclamer une accélération du processus de justice transitionnelle. Un mouvement social inédit, un an et demi après la chute du régime Assad. Les autorités qui craignent des règlements de compte alors que de nouvelles audiences se tiennent demain dans le cadre de procès d'anciens hauts dignitaires de la dictature. Et ce alors que 6000 cadres de l'ancien régime ont déjà été arrêtés. Une réponse qui ne suffit pas à calmer les revendications populaires. Loin de là, reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin.
C'est à Deresor qu'a débuté le 10 juin dernier le mouvement du sit-in pour la dignité. Ahmad a pris part à la contestation destinée à faire pression sur le gouvernement de transition.
Aujourd'hui, on voit encore des criminels se balader parmi nous comme si de rien n'était.
À Alep, Idlib, Latakia ou encore Damas, le mouvement a rapidement pris de l'ampleur. Des milliers d'habitants sont descendus dans la rue pour réclamer une accélération des poursuites contre les responsables des crimes de l'ancien régime, mais aussi une amélioration des conditions de vie toujours aussi difficiles.
Un an et demi après la révolution, nous n'avons encore rien vu de ces bénéfices, à commencer par une vie digne pour les citoyens.
La contestation se déroule en parallèle du procès de plusieurs grandes figures du clan Assad, Ali Lali, révolutionnaire de la ville.
Ce n'est pas une justice transitionnelle, mais une justice sélective. Nous réclamons le jugement de l'ensemble des responsables et une réparation des préjudices subis par les victimes.
Autre revendication, une meilleure représentation des mouvements révolutionnaires dans les institutions de l'État. Plusieurs militants s'inquiètent d'une concentration du pouvoir autour du cercle du président, Ahmed Al-Shara.
Il n'est pas acceptable que nous ne puissions pas participer à la vie politique, ni même encore créer de parti.
Sans justice, prévient-il, la colère pourrait virer à la vengeance, avant d'ajouter l'existence même d'une contestation et la preuve d'une victoire de la révolution. Manon Chaplin, Deresor, RFI.
RFI 9h09 à Djouba, enfin de premières élections programmées au Soudan du Sud.
Les toutes premières de l'histoire du pays indépendant depuis 2011. Elle devrait avoir lieu le 22 décembre, comme l'a confirmé la Commission électorale nationale. Des élections maintes fois reportées en raison de la guerre civile et de la rivalité entre les deux camps belligérants, à savoir celui du président Salva Kiir et celui de son vice-président, Riek Machar. Au Ghana, à présent, la conférence sur la justice réparatrice vient de s'achever dans le pays et dans la foulée, les autorités ghanéennes ont annoncé que les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, allaient restituer près de 2000 objets pillés durant l'époque coloniale, Guillaume Thibault.
Très impliqué sur les questions des restitutions,
bonsoir tout le monde.
Spaghetti air pissing on my very long nose, like a shower of tears, a shower of beers, and a shower of tears. Fuck him all and never fuck him. My brain under the moon and inside the gloom, and I saw all my dreams, I saw my nightmares jumping from my ear. Fuck him all and never fuck him up. Shut up and fuck him up. Can't spit so long, the fucking song on me. I'll never be wet. I'll never be wet. I'll never be wet. Fuck him all and I'll fuck him all. Loneliness seems to be colder when you're clutch. And I'm always back by me. Oh,
La musique a une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas ? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Job, j'ai une femme et God, et je ramène le dos. quand on me rencontre, on dit Corey Hart est cold. J'fais pas exception à la règle, homme, c'est un fauve. Avant pour moi, tout le monde était cool et alright. Maintenant mon mind state, si t'es un trou de cul, prouve-moi le contraire. Grosse caisse de 12, mais don't mind, c'est pas moi qui parle, c'est la bouche. Go 5, j'fais du loup pour le show live. Sur la scène avec mes goons, trop high. Beat pour le proof, pis les dope rhymes. Got that job, le pauvre. Stand it hustle pour récolter des morceaux, j'suis fucking gold.
J'slide sur la glace noire, froid comme le vent du nord. En dessous des glaces dans la ville nord, Éther et moi mille ans plus tard. J'slide sur la glace noire, froid comme le vent du nord. En dessous des glaces dans la ville nord.
Essayez donc de me dompter, ça sert à rien. Je vais te montrer que je suis cold comme l'hiver à Rouen. C'est l'heure de get the bread, pas des miettes de pain. J'ai des visions d'horreur de ma vie qui get the pain. Je suis supposé recevoir un chèque demain. Après à peine une semaine, il reste plus rien. On peut make it rain, Québec's the blame. J'arrête de niaiser, je ferme les yeux puis je serre les poings. Fuck la job, j'vais la lâcher demain. J'ai callé off juste pour boire du vin. On monte à bord de train, on part loin. Y'all with me, frozen all frisky comme Walt Disney ou le corps de Whitney. Flow nice comme spotted en panne de Ellen jusqu'au gars de Dashlag. J'ai pas besoin de Radio Can ou de Guy. Oh, je le sais que tous les motherfuckers en parlent. Fait autour de metal dans le body. Moins 50 nights, baisse et neige, collé d'en face. Charles de poule, j'vais t'en donner en masse. Cold, froid, poigné dans glace.
J'slide sur la glace noire, froid comme le vent du nord. En dessous des glaces dans la ville nord, Éther et moi mille ans plus tard. J'slide sur la glace noire, froid comme le vent du nord. En dessous des glaces dans la ville nord.
Thank you. Verneuil-d'Avray-Diton sur le DAB+.
Sur le DAB+.